VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. Burkina Faso, les Burkinabés attendent aujourd'hui les résultats de la présidentielle de dimanche pour connaître, qui sait, le nom de leur nouveau président. Élection qui va tourner la page d'une année de transition difficile et surtout mettre le point final au chapitre des 27 ans de régime de l'ex-président Blaise Compaoré. 14 candidats dont 2 femmes sont en lice pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Quelques 5,5 millions d'électeurs étaient appelés à participer à ce scrutin, couplé à des législatives. Le dépouillement avait été interrompu pendant un certain temps pour cause de problèmes techniques, mais le décompte a maintenant repris. Plus de détails avec notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Oui, tout semble entrer dans l'ordre, hein, et le dépouillement a effectivement repris. Ça se poursuit à la CENI, au quartier général de la CENI à Ouagadougou. Et donc, à 13h55, on avait 95 communes, hein, les résultats de 95 communes sur les 368 de l'ensemble du territoire national. Et donc, nous avons ces résultats. On attend toujours des centaines d'autres communes. Et pour l'instant, les dépouillements se poursuivent.
Qu'en est-il des résultats? Et s'il y a des tendances qui se dégagent, je crois comprendre que 2 anciens barons du régime de l'ex-président Blaise Compaoré étaient en tête d'après certains résultats.
Oui, sur la base de ces résultats préliminaires, hein, on peut dire que les 2 candidats favoris à la présidentielle se détachent carrément du lot. Il s'agit de Rocco Kabore, de Zéphirin Diabré. Les autres viennent loin derrière. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, hein, mais il faut dire que ces résultats sont encore faible et on attend de voir si la CENI pourra tenir sa promesse de proclamer les résultats à jour J plus 1, c'est-à-dire au lendemain du scrutin ce soir, donc à 18h. C'est une promesse de Maître Barthélémy Kéré, le président de la CENI, la commission électorale. Mais jusque-là, on ne sait pas si cette promesse sera tenue. Hein. Comme je l'ai dit, on n'est qu'à autour de 100, donc 100 communes, seulement les résultats de 100 communes du pays. Et donc, on se demande si la CENI pourra tenir ses promesses. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fermeture des bureaux de vote, les membres du dit bureau, qu'ils soient à Ouagadougou ou en province, procèdent au décompte des voix. Les résultats sont ensuite acheminés à la CETI, la commission électorale communale indépendante, qui les achemine ensuite au niveau de la province, à la CEPI, la commission provinciale, donc, qui ensuite les achemine par voie satellitaire à Ouagadougou. Je crois que c'est par ces moyens-là qu'il y avait eu une certaine panne technique qui bloquait tout ce matin, mais tout semble être remis à l'ordre.
Pouvez-vous nous parler un peu de ces 2 candidats qui se détachent du lot? Ce sont des anciens barons du régime de l'ex-président Blaise Compaoré.
Eh bien, on commence d'abord par Rocco Kabore. C'est un ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien patron du parti de Blaise Compaoré, le CDP. Il a démissionné il y a un peu moins de 2 ans, hein, d'une partie au pouvoir pour donc rejoindre l'opposition où il a trouvé déjà Zéphirin Diabré, un autre ministre de Blaise Compaoré, il était ministre des Finances de Compaoré. Sur le terrain, ce sont ces 2 candidats qui mobilisaient le plus de militants et ça se voit aujourd'hui dans les tendances qu'on a reçues jusque-là.
Bagassi Koura, notre envoyé spécial à Ouagadougou. Au Niger, le dialogue a repris entre l'opposition et la majorité sur les questions électorales, notamment le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et le chronogramme des élections générales de 2016 que l'opposition conteste. Un dialogue suspendu pendant plusieurs mois, l'opposition se félicite de la reprise des consultations.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le pape François a bouclé sa tournée africaine ce lundi en Centrafrique. Il a quitté Bangui pour Rome cet après-midi. Avant son départ de RCA, où il a passé 48 heures, le souverain pontife a été accueilli ce matin avec joie et émotion à la grande mosquée du quartier musulman PK5. Il a ensuite célébré une messe au grand stade de la ville. Retour sur la dernière étape de la visite du pape François à Bangui avec Freeman Sipila.
La visite du pape François ce matin à la grande mosquée de PK5 était très émotionnelle. Dans son mot de circonstance, le chef de la mosquée centrale, l'imam Tidjani Moussa Naibi, a indiqué que chrétiens et musulmans sont condamnés à vivre ensemble. Le pays traverse un moment douloureux, un moment regrettable, mais bientôt, très bientôt, Inch'Allah, la paix va revenir en République centrafricaine, a poursuivi l'imam Tidjani Moussa Naibi. Prenant la parole à son tour, le pape François a salué les efforts des responsables de la communauté musulmane en faveur de la la paix et du vivre ensemble en Centrafrique. Le chef de l'Église catholique a formulé aussi les vœux de voir les Centrafricains s'unir avant d'aller aux élections prévues fin 2015. La grande messe célébrée par le Saint-Père au complexe sportif Barthélemy Bougonda avant son départ pour l'aéroport a mobilisé 2 milliers de Centrafricains venus de partout. La confession musulmane était aussi fortement mobilisée pour cette messe. Abdoulaye Wasselégué, l'imam de la mosquée détruite de Pétévo dans le 6e arrondissement, a pu sortir de PK5 isolé depuis plusieurs semaines.
C'est une journée de paix, une journée de sécurité, une journée de confiance. Aujourd'hui, Dieu a exaucé nos voeux, le pape est venu et nous osons espérer effectivement que la paix sera retrouvée.
La messe au stade a mis fin à la visite papale à Bangui. L'avion du souverain pontife a décollé de l'aéroport de Bangui à 11h50. Temps universel. Frimansi Pila, Bangui, VO Afrique.
En RDC, un mort et 22 disparus dans un naufrage sur le lac Kivu selon les autorités locales. Par ailleurs, 12 personnes au moins tuées dans un casque bleu malawite de la MONUSCO dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais des ADF contre Eringeti, une localité de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. C'est ce qu'affirme un notable de cette ville. Mais une ONG locale parle de 30 morts. Et puis au Tchad, fin de la 65e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique qui s'était ouverte le 23 novembre à N'Djamena. Cette rencontre a permis au ministre de la Santé des pays membres de l'organe directeur de l'OMS pour la région africaine de réfléchir sur le faible accès aux soins de qualité, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajinga.
Tirant les leçons de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a mis à rude épreuve les systèmes de santé africains, la 65e session de N'Djamena a décidé de revoir en hausse le budget alloué au Fonds africain pour les urgences de santé publique afin de faire face aux maladies tropicales négligées et non transmissibles. Faisant l'état des lieux du paludisme en Afrique, la directrice régionale de l'OMS, Dr Mashidiso Moeti, a fait comprendre que la mortalité et les cas de morbidité dus au paludisme ont baissé respectivement de 46% et plus de 50% pendant les 10 dernières années. Cependant, beaucoup reste à faire, d'où la nécessité d'avoir un vaccin préventif le plus tôt que possible.
Ça a pris beaucoup d'années, c'est vrai, qu'il y a un vaccin candidat qui est en train d'être développé contre le paludisme. Le taux de l'efficacité de ce vaccin n'est pas si haut que ça a été souhaité avant. Mais quand même, je crois que ça arrive à 35 ou 40% d'efficacité. Ça peut être une des outils qui sont disponibles pour lutter contre le paludisme. Mais nous allons l'espoir que la recherche va continuer pour améliorer plus l'efficacité de ce vaccin. Donc il y a des stratégies qui soulignent le financement que les pays africains eux-mêmes doivent améliorer. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir.
À l'heure actuelle, les chefs d'État africains n'ont qu'une seule priorité, lutter contre le terrorisme. Auront-ils des ressources financières suffisantes pour injecter dans les infrastructures de recherche pour la santé humaine? Hassan Guiadoum, ministre secrétaire d'État à la santé publique et président de la 65e session de N'Djamena, répond.
Les États sont confrontés à de multiples défis et tout est priorité finalement en Afrique. Et donc, c'est pas par négligence d'un secteur, surtout en situation d'urgence généralement, on dépense beaucoup plus qu'en temps normal. Et aujourd'hui, au niveau de nos États, le terrorisme est devenu un cas d'urgence parce que c'est un ennemi invisible. Et ça demande également beaucoup de moyens. Mais je voudrais vous rassurer que la santé fait partie des priorités des pays africains. Et ce secteur ne sera jamais délaissé.
La session de N'Djamena recommande aux États membres de se doter d'un mécanisme de coordination entre les ministres de la Santé, les institutions de recherche et de contrôler toutes les activités de recherche pour la santé. À la direction régionale de l'OMS de réaliser tous les 2 ans une cartographie de l'état des systèmes nationaux de recherche pour la santé dans la région africaine, d'instituer des mécanismes de suivi, d'évaluation et de responsabilisation pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie de recherche pour la santé dans la région africaine 2016-2025. André Kodumadingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Ouverture à Paris de la plus grande conférence sur le climat jamais organisée en présence de 150 chefs d'État et de gouvernement. Objectif, parvenir à un accord historique pour limiter le réchauffement de la planète. Dans son discours d'ouverture, le président français François Hollande a déclaré qu'il veut un accord ambitieux, universel et contraignant. Pour sa part, le ministre péruvien de l'Environnement, Manuel Pulgar Vidal, qui avait présidé la précédente conférence de l'ONU sur le climat et qui a passé le relais à Laurent Fabius, chef de la diplomatie française, eh bien, il a affirmé que le monde fait face à deux menaces terribles, le terrorisme et le changement climatique. Et pour terminer, une réunion ministérielle des pays voisins de la Libye se tiendra demain à Alger. C'est ce qu'a annoncé Abdelkader Messahel, le ministre algérien des Affaires maghrébines. Objectif, analyser les derniers développements en Libye. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.